On va parler aussi d'un sujet qui vous préoccupera sans doute davantage, chers auditeurs, surtout avec ce week-end de Pâques qui approche et vos éventuels déplacements dans vos familles respectives, la crise de l'énergie. Moi qui ai la chance et la malchance parfois d'habiter très loin de Paris, j'observe ça et là des pénuries de carburant dans les stations-service. Sans faire un grand cours de géopolitique, Thomas Morel, vous suivez ce dossier particulièrement à cœur. Pourquoi il n'y a plus d'essence, Thomas Morel, et pourquoi elle coûte aussi cher? Pourquoi mon plein de diesel est hors de prix, Thomas Morel, même que ça commence sérieusement à handicaper le budget?
Non, bah, je ne vais pas refaire l'histoire de la guerre en Iran, parce que j'imagine que tous les auditeurs le savent, nous aussi. Juste, effectivement, tant que
On
le
a tous appris à placer le détroit d'Ormuz
voilà,
assez récemment.
Exactement,
Hein,
tout le monde est devenu ornithologue en l'espace de quelques semaines. Voilà. Simplement, effectivement, c'est un temps qu'il y a un goulet d'étranglement où il est très difficile de faire circuler, où il est impossible à l'heure actuelle de faire circuler tous les tankers de la planète. Il n'y a pas de solution. Je veux dire, par ailleurs, on ne va pas mettre en place un réseau de camions pour le faire à la place des bateaux, parce que ça n'a aucun sens.
Vu les quantités, vu les
oui, voilà,
quantités transportées.
Ça n'est pas possible. La problématique, c'est comment est-ce qu'on sort de cette situation dans le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, Donald Trump demande à tout le monde, à tous les autres pays, de venir l'aider. Emmanuel Macron lui dit ça n'a jamais été notre idée de venir renverser le gouvernement iranien, ce qui est par ailleurs totalement impossible. Hein. Je veux dire, Donald Trump a expliqué qu'il pourrait le faire en 3-4 semaines quand il a commencé à bombarder l'Iran. Bon, bah, c'était il y a un mois. Voilà, on est toujours, il dit maintenant, c'est dans 3 ou 4 semaines, donc on a le sentiment que ça ne va pas vraiment bouger. Pour l'instant, il y a quand même, j'ai l'impression de ce que je vois, relativement peu de pénurie. Ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, le prix de carburant s'est envolé de manière spectaculaire, qu'il est très très au-dessus de ce qu'il a été lors des mouvements sociaux précédents, gilets jaunes, etc.
On va en parler de cet aspect.
Voilà.
Après, ouais.
Pour l'instant, ça a pas suscité, ça suscite pas encore la colère qu'on a pu voir à l'époque, mais je veux dire, c'est quand même une inquiétude très importante, particulièrement à un an de la prochaine élection, parce que c'est le genre de mouvement qui peut facilement être récupéré ou utilisé dans une campagne politique.
Alors, les pénuries sont pour l'instant assez minoritaires, mais néanmoins, elles progressent jour après jour, et comme on ne sait pas combien de temps va durer cette crise? C'est effectivement assez inquiétant, assez préoccupant. Nicolas Boutin, d'un point de vue plus pragmatique, c'est une vraie crainte de l'exécutif. En tout cas, on le sait, parce qu'ils nous le disent tout simplement. Le premier mandat d'Emmanuel Macron a commencé avec, une révolution, en tout cas la révolte des Gilets jaunes. Est-ce que le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron pourrait se terminer avec une nouvelle crise des Gilets jaunes? Vous qui suivez l'actualité de nos chères régions avec peut-être plus d'attention que nous, quelles sont les remontées que vous pouvez avoir?
Nous, ce qu'on peut dire, alors je ne vais pas faire le porte-parole, vous savez, des provinciaux non plus, hein, mais...
Non, d'ailleurs, on ne parle pas de provinciaux ici, parce que c'est un terme qui n'a aucun sens.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas me permettre de parler au nom de tout le monde, mais c'est vrai que ce que l'on ressent ici, moi, pour tout vous dire, je vois le diesel ici à 2,30 €, à ma station-service, là où il était à 1,70 € il y a encore quelques semaines, voire même 1,60 €. Donc, effectivement, c'est quand même quelque chose qui handicape tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde était quand même assez abasourdi et se sent assez démuni par cette envolée des prix. Ce qui nous revient beaucoup, c'est pourquoi est-ce que les prix ont été augmentés par la grande distribution notamment, et en tout cas par les fournisseurs, les distributeurs, avant même que le augmente réellement, c'est-à-dire en amont, en prévision de l'augmentation des barils. Ça, c'est une grande incompréhension qui persiste encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait pu expliquer dans les médias que il y a très peu de marge de la part des distributeurs. C'est plus un produit d'appel pour tout ce qui concerne la grande distribution. Et puis, il y a quand même cette incompréhension de pourquoi est-ce qu'aucune mesure n'est prise de la part de l'État, ne serait-ce qu'au moins sur les taxes ou le blocage de prix, notamment quand on voit que quasiment tous les autres pays en Europe ont pris des mesures dans ce sens.
Pour l'instant, oui, très
très,
normal.
ce qui est très ironique, c'est que l'État explique que c'est pas la peine de baisser les taxes parce que ça change rien sur le prix, mais qu'en revanche, si on les baisse,
C'est
ça va lui
génial, ça.
coûter très très cher au budget. Et donc, il y a
Oui.
un côté. Ça n'a pas d'influence sur vous, mais ça a une influence très importante qui n'a absolument aucun sens.
Ça n'a pas d'influence, mais si on vous fait les fonds des poches, c'est parce qu'on est sec, hein, globalement, en sachant que Total, de son côté, a lui décidé de bloquer les prix. Ce qui est fabuleux, c'est que l'État ne peut pas faire ce qu'une entreprise privée fait
Et je
extrêmement bien.
rappelle que par ailleurs, le carburant fait partie de ces rares produits en France où il y a des taxes sur des taxes. C'est-à-dire
Oui.
qu'on vous fait payer la taxe intérieure sur les produits énergétiques et par ailleurs, on met une TVA sur cette taxe. Parce que comme ça, pourquoi pas?
Voilà, et
On
la
fait de l'argent en
France,
plus.
elle reste le pays le plus taxé d'Europe, hein, cocorico. Nicolas Boutin.
Vous voyez, c'est là où, comment dire, si on voulait éviter une révolte des Gilets jaunes ou sous n'importe quelle forme dans les prochains mois pour finir le mandat, je pense que, et si vraiment on voulait expliquer aux Français que oui, il y a besoin aujourd'hui de faire des économies, oui, il y a besoin à chacun de faire des efforts pour pouvoir redresser la barre des finances publiques en France. Eh bien, l'État doit être capable aussi de faire un effort pour ses administrés, notamment dans ces périodes compliquées, en
Ouais.
faisant au moins cadeau peut-être de la TVA sur la taxe intérieure. Et ça c'est pas fait. Et alors, on a ce véritable. Pour répondre vraiment à votre question sur est-ce que une nouvelle révolte, une nouvelle jacquerie, si elle pouvait de nouveau arriver, pour le moment, on ne la sent pas particulièrement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est assez, comment dire, ce qui nous remonte à la fois d'élus locaux, vous savez, ces maires qui sont toujours au contact de leur
Bien sûr.
population chaque jour, notamment dans des villes moyennes, des petites villes, et puis même, qui en tout cas qui est corroboré notamment par des policiers, vous savez, des renseignements territoriaux, ceux qui sont
Ouais.
censés prendre le pouls politique, social du pays et faire remonter au ministère de l'Intérieur.
Ouais.
Ce qui nous revient, nous, à nos oreilles, c'est que les Français seraient plutôt dans l'attente et dans l'attente de 2027. Alors, qu'est-ce qu'il y a
Vous
derrière
voulez dire qu'ils attendent encore un changement de la part de la politique? Les Français sont quand même étonnants, ils sont d'une patience et d'une
C'est là où
résilience incroyable, Nicolas Boutin.
les élections présidentielles peuvent devenir aussi très, très dangereuses. C'est-à-dire que s'il y a un sentiment de se faire voler, s'il y a par exemple, ah, mais si on regarde les sondages d'aujourd'hui, si on voit que le candidat à 36% au premier tour est
On va
battu
en
au second
parler avec Arnaud Benedetti dans quelques instants, Nicolas Boutin, des
tour.
sondages présidentiels. Donc là, la transition est
Oui,
pas
c'est
mal. En
parfait.
tout cas, à toi commercial qui habite en région, qui a un fixe pas très haut et qui te fait voler tes marges par le coût du carburant avec une entreprise qui périclite un petit peu. Eh bien, sache que toute l'équipe de Radio Courtoisie est avec toi. On te souhaite bon courage. Puisqu'on parle de bon courage, Thomas Morel, on va parler d'un sujet qui en demande énormément. On va parler de l'enfance et plus précisément de l'éducation nationale, Thomas Morel.
Et oui, parce que vous avez peut-être, chers auditeurs, comme moi, comme d'ailleurs peut-être vous aussi, Marc, dû garder vos enfants à la maison mardi pour cause de grève dans l'éducation nationale. Et si c'est le cas, vous êtes peut-être, comme moi aussi, demandé, mais pourquoi cette fois? Et oui, je dis cette fois parce qu'en réalité, les mouvements sont tellement nombreux que même l'intelligence artificielle que j'utilise pour préparer cette chronique et à qui je demande de compiler ce genre d'informations n'a pas été capable de me donner une réponse exhaustive. J'ai posé 4 fois la question, j'ai eu 4 réponses différentes.
On précise que ce n'est pas l'IA qui a écrit cette chronique en revanche.
Non.
Et donc, est-ce que vous avez trouvé pourquoi? Est-ce que presque l'IA a trouvé pourquoi, du coup, Thomas Morel?
Mais bien sûr, alors c'est moi en l'occurrence qui ai
On
trouvé
est d'accord, on est
la
d'accord. Non,
réponse.
on est d'accord.
Il
Rassurez-vous.
s'agissait en fait de contester la suppression à la rentrée prochaine de 4000 postes d'enseignants dans le primaire et le secondaire, public, privé confondu. Pour les syndicats, ça ferait courir le risque de classes surchargées, de conditions de travail dégradées, et dans leur appel à la grève, ils parlent d'un service public d'éducation déjà exsangue. Le problème, c'est que cet argument résiste mal au réel. Les syndicats refusent de voir l'évidence. La natalité est en chute libre. Vous le
Ça.
savez, Marc, nos auditeurs le savent, je l'ai moi-même écrit à de multiples reprises dans Valeurs Actuelles, mais ces conséquences concrètes, en fait, on les voit aujourd'hui. Il y a de moins en moins d'enfants dans nos écoles. Selon les chiffres même de l'Éducation nationale, à la rentrée 2026, il y aura tout juste 6 millions d'élèves dans le primaire. C'est 100 000 de moins qu'à la rentrée dernière et c'est 100 000 de moins qu'à la rentrée encore avant. Concrètement, rien que pour la rentrée prochaine, on aurait donc pu supprimer 8 000 postes sans même faire grimper le nombre d'élèves par classe.
Mais en fait, 4 000, c'est donc deux fois moins que ce qui aurait été suffisant pour maintenir le même nombre d'élèves par classe. C'est un effort significatif de la part du ministère.
Ben oui, c'est-à-dire que le ministère dit, en fait, on va maintenir plus d'élèves pour faire diminuer, pour donner plus le nombre d'élèves par classe, pour donner plus de confort aux profs. Mais tout ça, c'est encore trop demandé, c'est encore trop pour les syndicats, trop de suppression pour les syndicats, les parents d'élèves, tous ceux qui veulent défendre le système éducatif, mais qui, en réalité, réfléchissent pas beaucoup. Car en fait, quand on maintient en poste des enseignants plus nombreux que nécessaire, c'est quand même aussi se priver de marge pour augmenter les salaires dans un ministère dont le budget s'étire pas à l'infini. À chaque fois qu'on maintient en poste inutile, eh ben en réalité, c'est un arbitrage contre la revalorisation des profs, revalorisation qui est importante quand même. Les profs sont
Absolument,
singulièrement très mal payés en
absolument.
France. Les augmenter, c'est
Et
toujours une
on les
bonne nouvelle.
soutient.
Ouais. Mais le vrai problème, en fait, est ailleurs. La Cour des comptes vient de le pointer dans son rapport public annuel. Plus de 300 collèges ruraux comptent aujourd'hui moins de 200 élèves. Il y en a même, j'ai été chercher, qui en ont moins de 50. Vous avez des élèves dans le centre de la France, des collèges dans le centre de la France où vous avez 40, 43 élèves. Et là, on parle d'établissements qui ne se justifient plus démographiquement, qui ont des personnels administratifs, des directeurs, qui ont des structures, etc. Ceux-là, à terme, ils sont condamnés. Mais le problème, c'est que personne ne veut payer le coût politique pour le dire aujourd'hui, et donc on parle d'autre chose.
C'est absolument le problème, effectivement. La franchise en politique coûte cher. La franchise demande de ne plus penser à son intérêt politique électoral, et c'est là que ça pêche. On accueille tout de suite Arnaud Benedetti. Bonsoir Arnaud, comment allez-vous?
Bonsoir, merci, ça va très bien.
Bon, on vous accueille parce qu'on a été abreuvé de sondages ces derniers jours, Arnaud Benedetti. Alors on va résumer. Jordan Bardella largement en tête au premier tour, peu importe la configuration de départ. On parle de chiffres allant de 35 à 38,5%, largement vainqueur dans un second tour qu'il opposerait à Jean-Luc Mélenchon avec 71,5% des voix, mais en ballottage défavorable face à Édouard Philippe où il ne terminerait qu'à 48,5%. Donc ce premier sondage ELAB sur la présidentielle a été publié après les municipales. Et il semblerait qu'il a marqué un petit peu le coup d'envoi officieux de la campagne présidentielle de 2027. Arnaud Benedetti sur ce sondage.
Et moi, je reste comme tout un chacun extrêmement prudent quant à des sondages à plus d'un an du premier tour de l'élection présidentielle. Je rappelle que Valéry Giscard d'Estaing, en 1980, aurait été élu si on en avait cru les sondages, que Raymond Barre aurait été élu si on avait cru les sondages en 1987, que Édouard Balladur aurait été largement élu, y compris en janvier ou février 1995, que Lionel Jospin était également élu et qui n'a pas franchi le premier tour de l'élection présidentielle. Et la liste est longue. Donc, il y a au moins deux raisons pour lesquelles il faut être, j'allais dire, très réservé quant au sondage aussi loin de l'échéance présidentielle. D'abord, première raison, c'est qu'on ne sait pas quel sera l'état véritable de la concurrence politique dans quelques mois et a fortiori au printemps prochain. Et deuxième élément, c'est que on sait très bien que les opinions publiques ne peuvent se cristalliser qu'en fonction d'un contexte et d'une conjoncture donnée que l'on est incapable de connaître aujourd'hui à l'heure où nous parlons. Donc ces deux paramètres rendent extrêmement incertain l'exercice sondagier. Après, il y a des questions qui se posent, c'est-à-dire c'est l'usage que l'on fait des sondages dans la compétition politique, dans la campagne ou dans la pré-campagne présidentielle. Là, en effet, est-ce que ces sondages peuvent avoir un effet sur l'équilibre des forces à l'intérieur d'un camp? On voit bien que en effet, ces sondages qui sortent juste après l'élection municipale vont avoir un impact sur ce que l'on appelle le bloc central ou le centre et la droite, parce que ça va contraindre les uns et les autres de se positionner par rapport notamment à cette candidature d'Édouard Philippe.
J'allais y venir justement, Arnaud Benedetti. Après, je laisserai évidemment à mes camarades le soin de vous poser des questions. Je suis sûr qu'ils en ont. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous présenter. Vous êtes évidemment directeur de la nouvelle revue politique et vous êtes aussi le fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal et évidemment essayiste, notamment auteur d'un essai sur la capacité ou non de Marine Le Pen à gagner l'élection présidentielle de 2027. Ça, c'était pour votre historique. Évidemment, la principale, vous avez raison, la principale information de ce sondage, c'est Édouard Philippe, que ce sondage montre un petit peu comme la seule le personnage politique du Bloc central le plus à même de gagner l'élection. Mais vous y avez partiellement répondu, Arnaud, mais on a, moi, j'ai l'impression qu'on nous refait un peu une Juppé 2016, quoi, qu'on nous refait le coup de... en plus, je dis même pas ça parce qu'Édouard Philippe est un peu le fils spirituel d'un Juppé, mais on revient un petit peu dans cette espèce, effectivement, de tentation, de propulsion... d'un candidat.
Oui, alors vous avez raison de citer Alain Juppé parce que ça ne lui a pas particulièrement réussi. Il était très favori, notamment de l'élection présidentielle de 2017, à peu près à 8 mois ou 10 mois de l'échéance. Le problème, c'est qu'il n'a même pas franchi le cap de la primaire des LR à l'époque. Donc, ce qui permet encore une fois de relativiser les études sur les intentions de vote. Je crois qu'en effet, vous avez raison, finalement, c'est quelque part ce que l'on appelle, de manière très exagérée d'ailleurs, le cercle de la raison, qui essaye de se trouver un candidat après avoir gouverné pendant 10 ans. Et la difficulté pour Édouard Philippe, ça sera d'abord dans un premier temps d'être capable de fédérer un camp politique qui va à peu près du centre jusqu'à la droite, jusqu'à LR, si je comprends bien, en l'occurrence. Et le deuxième sujet pour lui, et qui est un sujet encore plus, j'allais dire, handicapant, c'est qu'il va falloir qu'il fasse oublier, d'une certaine façon, qu'il a été le premier ministre de Emmanuel Macron, et qu'il incarne à la fois, si vous voulez, dans un exercice particulièrement difficile, parce que ça nécessite un équilibre très subtil, à la fois d'une certaine façon une rupture par rapport au macronisme, tout en étant malgré tout un des héritiers de ces 10 années de macronisme, même si on a vu Édouard Philippe depuis maintenant plusieurs années, quasiment depuis 2 ans, depuis 2024, prendre ses distances avec Emmanuel Macron. Je rappelle qu'il annonce sa candidature à l'élection présidentielle en septembre 2024, il faut s'en souvenir. Ça fait 2 ans qu'il se prépare au moins à cette échéance. Mais encore une fois, il est sur une ligne de crête qui est quand même particulièrement difficile à emprunter. Sera-t-il capable à la fois d'être le continuateur de ce parti central d'une certaine façon, tout en étant en rupture par rapport à Emmanuel Macron? C'est la vraie difficulté à laquelle il doit s'affronter.
Nicolas Boutin.
Oui, Arnaud Vézi, bonjour, bonsoir. Petite question, justement, si. Alors, évidemment qu'il faut prendre les sondages avec beaucoup de prudence aujourd'hui, mais on a l'impression quand même que si Édouard Philippe peut gagner au second tour, au premier tour, il est donné à moins de 20%. Et il y a, ce qui est un petit peu, on évoquait tout à l'heure, ce risque de voir finalement un candidat, si, encore une fois, si on croit les sondages, à 35% au premier tour, se faire battre par finalement une myriade de par une grande coalition, se faire battre par un candidat qui au premier tour récolté que 12, 13, peut-être 16, 18%. Ça pose pas un problème aujourd'hui dans notre démocratie?
La vérité, c'est qu'il faut que le candidat qui soit à 35% soit capable d'affirmer d'ailleurs cette loi qui veut que, arrivant en tête très largement, parce qu'il est celui qui bénéficie au premier tour d'une dynamique socio-électorale puissante, ne parvient pas à franchir les 50% nécessaires à son élection. Alors, ça pose pas... On ne peut pas dire que ça pose un problème démocratique. Après, ce sont les électeurs qui choisissent en connaissance de cause et qui reportent leur suffrage sur le candidat qu'ils souhaitent voir accéder à l'Élysée, pour des raisons très différentes d'ailleurs, parce qu'il y aura une partie de cet électorat qui pourrait... Et on travaille sur des conjectures, là, hein, quand même, donc il faut être très prudent, encore une fois. Mais il y aurait certainement, d'une certaine façon, un vote d'adhésion pour Édouard Philippe, dans cette hypothèse-là. En tout cas, ça serait le vote du premier tour. Et puis, un vote qui serait un vote, en effet, de barrage, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler quant au candidat auquel s'affronterait Édouard Philippe. Donc, vous savez, dans tout vote, il y a à la fois du rejet et de l'adhésion. Donc, de ce point de vue-là, je n'irai pas à dire que ça pose un problème démocratique. Le problème, c'est que dans un second tour d'une élection présidentielle, il faut être capable de rassembler. C'est le sujet essentiel du second tour de l'élection présidentielle. Il faut être en mesure d'élargir sa base électorale pour pouvoir, à un moment donné, franchir le cap qui vous permet de gagner l'élection. Ça, c'est la réalité, j'allais dire, historique de l'élection présidentielle. Après, la vraie question est de savoir si finalement cette hypothèse se répéterait à nouveau dans le contexte de 2027. Pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est évident, c'est qu'on sera capable, me semble-t-il, d'avoir un état des lieux qui soit à peu près un état des lieux qui permette de mesurer les grandes lignes de force de cette élection présidentielle dès lors qu'on saura quel est véritablement l'état de la concurrence. Je rappelle quand même que qui aurait parié sur Emmanuel Macron en 2016 ?
Oui, absolument. Absolument.
En l'occurrence, personne. En 2016, quand il est candidat, personne n'imagine un seul instant qu'Emmanuel Macron pourra remporter l'Élysée. Et tout le monde considère que cette candidature est d'abord une candidature de témoignage qui vise à prendre date pour la suite. La réalité, c'est qu'après la dynamique même de la campagne, avec les accidents de campagne, avec les rebondissements de la campagne, dans un contexte politique, qui est un contexte politique évidemment extrêmement instable, vont permettre à Emmanuel Macron de se faufiler dans un trou de souris, et de finir par l'emporter.
Donc, si je comprends bien, mon pari, je dois mettre sur Jérôme Guedj ou David Lisnard.
Pardon ?
Si je comprends bien, mon pari, je dois mettre une pièce sur Jérôme Guedj ou David Lisnard, alors.
Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Mais si vous voulez, en l'occurrence, un candidat inattendu, la démonstration a été faite qu'il peut remporter l'élection présidentielle. En tout cas, on l'a vu en 2017, ce qui est une première de la Ve République, parce qu'en général, les candidats qui l'emportaient jusqu'à finalement l'élection de François Hollande étaient des candidats qui d'abord avaient franchi les différentes étapes d'une carrière politique qui constituait le cursus honorum du candidat à la présidence de la République, parce qu'ils avaient déjà un capital de notoriété très fort, parce qu'ils avaient franchi en effet les différents stades d'élection qui permettent à un moment donné de maturer un candidat et de le rendre présidentiable. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des logiques de présidentiabilité qui sont beaucoup plus rapides qu'elle ne l'était en effet jusqu'à, par exemple, François Hollande. On se construit une image présidentielle de manière extrêmement rapide, ce qui n'est pas d'ailleurs composé de problèmes, parce que ça pose en fait, in fine, lorsqu'ils sont confrontés à l'exercice du pouvoir, la question de l'expérience.
Et l'autre question du coup qui me vient, Arnaud Benedetti, c'est qu'effectivement, alors là où je rejoins un peu ce que disait Nicolas Boutin, c'est que le ticket d'entrée au second tour risque d'être extrêmement bas, en tout cas à l'heure actuelle. Il y a aussi une autre donnée qui est certaine, je faisais une allusion à Alain Juppé pour une raison précise, c'est que il y a effectivement la question de l'autre candidature crédible, ce serait celle de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui a tout le paradoxe d'être en soi peut-être le plus légitime aux Républicains pour être candidat dans la mesure où il est président du parti, il a été ministre de l'Intérieur, et en même temps qui visiblement n'a pas la force politique nécessaire pour imposer sa légitimité, entre guillemets. Est-ce que on s'oriente vers un duel Philippe Retailleau? Est-ce que il faut pour ce camp qu'il n'y en ait qu'un seul des deux? Et est-ce que finalement on rejoue pas en fait l'éternelle guerre Fillon Juppé, quoi?
Oui, mais avec un contexte un peu politique, un peu différent. C'était qu'entre-temps, il y a eu le macronisme.
Ouais, justement, donc, oui.
Ça change considérablement la donne et ça change considérablement la perception que l'on peut avoir. Et n'oubliez pas aussi qu'il peut y avoir la candidature de M. Gabriel Attal, qui se prépare manifestement aussi à cette élection présidentielle et qui pourrait lui aussi déclarer sa candidature. Il est clair que dans cette partie de l'échiquier politique, qui va du centre jusqu'au LR, il y a aujourd'hui une potentialité importante de plusieurs candidatures. Monsieur Retailleau, vous l'avez cité, Monsieur Philippe, qui lui s'est déclaré, Monsieur Attal, Monsieur Lisnard, qui tout en étant en dehors des LR aujourd'hui, malgré tout, je veux dire, serait sur une zone de chalandise qui ne serait pas totalement éloignée de celle-ci également. Donc la multiplicité des candidatures dans le cadre d'une élection présidentielle peut affaiblir considérablement ce camp. Et ouais. L'hypothèse qu'aucun de ces candidats ne se retrouve au second tour n'est pas totalement à exclure s'il y a une multiplicité de candidatures comme celle que je viens de citer. Quant à M. Retailleau, le problème c'est de M. Retailleau, je crois que de ce point de vue-là, M. Lisnard fait une analyse qui est assez juste, qu'on partage ou qu'on ne partage pas le projet de David Lisnard et sa démarche, c'est qu'il considère aujourd'hui que le problème de LR, c'est la clarification. C'est la clarification non seulement du projet, mais c'est aussi la clarification du positionnement par rapport au bloc central. Quand M. Lisnard dit « je ne sais pas où se situe aujourd'hui LR, est-ce que LR fait partie du bloc central ou n'en est pas ?» il pose une vraie question, parce qu'à partir du moment où vous avez quand même tout un ensemble de ministres LR qui certes ne sont plus aujourd'hui considérés comme LR, mais qui pourraient redevenir LR demain à partir du moment où ils ne seraient plus ministres, pose une question, si vous voulez, de positionnement par rapport à ce que l'on appelle le socle commun.
Thomas Morel.
Alors justement, vous faites la liste presque sans fin des candidats à droite qui pourraient envisager d'aller à la présidentielle. On pourrait aussi citer Nicolas Dupont-Aignan que nous avons reçu la semaine dernière dans cette émission. L'hypothèse d'une primaire à droite semble quand même de moins en moins possible. Il y a eu un bureau politique chez les Républicains il n'y a pas si longtemps que ça, donc a priori personne n'a vraiment réussi à tirer quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on peut faire pour départager tous ces candidats entre eux et essayer de ramener un peu de raison dans cet éventail de la droite de gouvernement ?
Laisser faire la nature politique, comme ça que ça se passe aussi. Et parce que quand même, faut être clair, quand vous regardez l'histoire des primaires depuis maintenant 2007, puisque la première primaire est une primaire interne organisée par la gauche, si mes souvenirs sont bons, par le Parti Socialiste, à l'exception notable de François Hollande, tous les candidats qui ont été sanctifiés par une primaire tant à gauche qu'à droite ont perdu l'élection, y compris François Fillon, qui avait pourtant remporté brillamment cette primaire. Considérer que la primaire est la martingale absolument essentielle pour, à un moment donné, conquérir le pouvoir, manifestement, les faits, encore une fois, à l'exception de l'ancien président Hollande, montrent le contraire. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut laisser à l'élection présidentielle la manière dont elle a été pensée et conçue par le général de Gaulle en 1962, lorsqu'il a voulu cette réforme de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'est que ça reste la rencontre d'un candidat, d'un homme, d'une femme, peu importe, avec un peuple. Et je crois que c'est même si, en effet, on voit bien que ça pose des problèmes en termes d'efficacité politique pour un camp politique. Le problème, c'est que je ne sais même pas de quel camp politique on parle.
Oui, c'est ça.
Parce que, si vous voulez, la difficulté, c'est qu'on est face à une métier. En fait, ce bloc, ce qu'on appelle le bloc dont on parle là, sur l'échiquier politique, encore une fois, qui va de Philippe à Retailleau, c'est un bloc, c'est une espèce de magma assez informe dans lequel, finalement, on a du mal à identifier les positionnements des uns et des autres, et des uns par rapport aux autres. Donc c'est toute la difficulté. Mais on voit bien qu'en tout cas, c'est ça qui est intéressant, en tout cas, du point de vue de l'observation politique, même si ce n'est pas un moment historique, loin de là, mais c'est que ces sondages qui, quand même, interviennent dans une campagne de communication dont il ne faut pas tout à fait être dupe non plus, si vous voulez, parce que quand vous avez des sondages qui sont réalisés juste après l'élection municipale, que notamment le premier sondage qui est le premier à mettre installer M. Philippe comme un favori potentiel de l'élection présidentielle, on voit ce sondage, il est fait par l'Institut Elab, il est quand même largement commenté sur un certain nombre de chaînes de télévision, que dans le même temps vous avez une tribune dans la tribune du dimanche de 90 ou 100 parlementaires et ministres qui en appellent à un candidat unique du centre-droit. Donc vous avez quand même derrière tout cela une stratégie de communication qui ne dit pas son nom mais qui ressemble fortement à une stratégie de communication.
Ce qui avait été vu d'ailleurs à l'époque où c'était Alain Juppé qui était à la place de Jean-Philippe.
Il faut décrypter aussi ce qui se joue dans les cuisines un peu. Donc tout ça a un côté un peu virtuel. qui ne correspond pas forcément, encore une fois, à la réalité, même du moment, d'ailleurs.
Mais en fait, est-ce que la difficulté pour les LR, là, quand je, pour revenir un peu à l'opposition symbolique Retailleau-Philippe, est-ce que c'est, vous avez dit justement qu'il y avait eu le macronisme entre les deux. En fait, le problème, c'est que ces deux courants-là, normalement, ils s'affrontaient au sein du même parti. Pourquoi pas, à la limite, dans le cadre d'une primaire. Mais là, le problème, c'est qu'on a deux candidats potentiels qui ont eux-mêmes leur formation politique et qui ont été un petit peu séparés par le macronisme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à une époque... Dans un monde normal, Édouard Philippe serait chez les Républicains, Bruno Retailleau serait chez les Républicains, et il y aurait les deux lignes un peu traditionnelles qui s'affronteraient au sein du parti, et ça éviterait peut-être cet éclatement, quoi.
Oui, alors est-ce qu'on retrouve, si vous voulez, la vieille dissociation entre ce qui était celle des années 70 et du début des années 80, et même des années 80, entre l'UDF et le RPR? Oui, pourquoi pas, en l'occurrence, parce que même si Édouard Philippe se réclame du gaullisme, il a quand même un positionnement qui est plutôt un positionnement de centre-droit et que M. Retailleau a une position beaucoup plus à un positionnement beaucoup plus à droite bien que Édouard Philippe, plus proche de ce qu'était en effet le RPR. Alors, on voit bien qu'aussi, si vous voulez, le moment qui est le nôtre, c'est un moment qui a pour objectif aussi, vraisemblablement pour les partisans de M. Philippe, de mettre la pression sur ses concurrents. C'est-à-dire, on va utiliser les sondages comme un moyen de légitimer sa candidature et d'écarter les candidatures concurrentes. Je pense à la candidature de M. Retailleau, qui lui s'est déclaré candidat à la présidence de la République, et aussi éventuellement à la candidature de M. Attal du côté des macronistes. Donc, il y a aussi cela derrière, j'allais dire, cette séquence politique que nous vivons.
Il y a donc l'autre question, évidemment, c'est le fait que Jordan Bardella soit donné gagnant face à Jean-Luc Mélenchon, mais en difficulté face à Édouard Philippe. Est-ce qu'on retombe un peu dans les limites structurelles du Rassemblement National? Ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième partie de ma question, c'est en admettant que Jordan Bardella ou Marine Le Pen remportent l'élection présidentielle, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'avoir une majorité, en fait, tout simplement, à l'Assemblée nationale?
Alors, vous avez raison, il y a encore une limite, manifestement, pour le Rassemblement national. On l'a vu notamment dans les grandes villes. Lors des élections municipales, Madame Lavalette aurait dû être élue à Toulon. Elle ne l'a pas été parce qu'il y a eu un front républicain qui n'en était pas un, d'ailleurs, en l'occurrence, véritablement. Mais en tout cas, il y a eu une majorité d'électeurs à Toulon qui ont préféré porter leur suffrage sur la concurrente de Madame Lavalette. Il ne faut pas en tirer non plus des conclusions trop hâtives, parce que la réalité, c'est que malgré tout, on a une érosion du vote de barrage, très nette. La tendance générale, quand on regarde depuis 10 ans, c'est une tendance à l'érosion, clairement. Donc, c'est un premier point. Deuxième point, en effet, ensuite, la question, c'est de savoir si Jordan Bardella ou Marine Le Pen ont de fortes chances, encore une fois, au regard de sondages, mais encore une fois, il faut prendre les sondages avec les plus extrêmes réserves, je le dis. Tout dépend quel sera le candidat qui leur sera opposé au second tour.
Ouais.
Vous avez cité en effet Jean-Luc Mélenchon. Dans cette hypothèse-là, on peut imaginer que le candidat du Rassemblement national ou la candidate du Rassemblement national l'emporterait.
Ouais.
C'est pour ça que la question, si vous voulez, de ce qui se passe quand même à l'intérieur de ce couloir politique qui va d'horizon au LR est très importante, parce que de leur capacité à s'unir, en effet, ils deviennent des concurrents sérieux pour la victoire. Ça, c'est une réalité, quel que soit d'ailleurs celui qui portera les couleurs, mais de leur incapacité à s'unir, en effet, ils redonnent du jeu dans la compétition électorale et ils redonnent, j'allais dire, un crédit certain à l'hypothèse, par exemple, d'un second tour qui pourrait opposer un candidat de gauche au Rassemblement national, sachant que dans cette hypothèse-là, celui qui aujourd'hui me semble le mieux aguerri à l'exercice, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, ça reste le leader de la France insoumise.
Merci Arnaud Benetti. Une question de Thomas Morel et
conclure. On parlait tout à l'heure avec Nicolas Boutin et Marc Hainaut de problématiques de la hausse du prix du carburant, de la frustration chez une partie des Français. Est-ce que cette espèce de bruit médiatique qui a déjà commencé, qui va durer maintenant pendant encore de très longs mois, Ça peut, y a, est-ce qu'il y a un risque que tout ceci puisse donner à l'arrivée le sentiment aux gens que l'élection présidentielle est jouée à l'avance, qu'en réalité on ne leur demande pas leur avis, et est-ce que tout ça peut pas être porteur de conséquences dans la société du fait que tout le monde se dise à la fin, ces gens ne nous écoutent pas et font ce qu'ils veulent et on nous fait semblant de nous donner notre avis pour la présidentielle et tout ça ne sert à rien.
Alors, si vous voulez, le décor que vous plantez est un décor qui, si tel était le cas, favoriserait l'abstention. C'est-à-dire que les gens considéreront que, finalement, le vote, d'une certaine façon, n'est plus un moyen de changer les choses, vous avez un retrait qui se fait, un retrait civique. D'ailleurs, la réalité de la vie politique depuis maintenant plusieurs décennies, c'est une tendance au retrait civique, puisque toute élection confondue, on note, alors avec parfois des exceptions évidemment, selon les élections et selon les années, mais on note une forte tendance à l'abstention qui s'est encore d'ailleurs manifestée lors des élections municipales, puisque, il faut le rappeler, ces élections municipales, si on fait exception de celles de 2020, sont celles qui ont connu le plus fort taux d'abstention de toute la Ve République. Donc, ça posera une question déjà sur la participation. Et la participation est une condition essentielle pour un certain nombre de forces politiques, dont le Rassemblement national, qui aujourd'hui bénéficie de la participation, alors que ce n'est pas tout à fait son histoire. À un moment donné, il bénéficiait plutôt de l'abstention. Aujourd'hui, une forte participation, ça veut dire que les classes populaires se mobilisent et qu'elles vont plutôt généralement voter pour le Rassemblement national. Après, le deuxième sujet, c'est l'idée que le politique, de toute façon, ne peut plus rien pour eux. C'est-à-dire que le politique, à l'échelle de notamment l'État-nation, c'est-à-dire qu'en fait, que les décisions qui sont prises ne peuvent changer le cours des choses. Parce que tout simplement, vous avez tout un ensemble de contraintes qui sont des contraintes internationales, des contraintes européennes, des contraintes juridiques également, quand je pense à la question, par exemple, de l'immigration, qui font que, de toute façon, leur vote ne sera pas entendu. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'il y a quand même une expérience qui a été très douloureuse pour la démocratie française ces 30 dernières années, c'est l'expérience du, on le répète à chaque fois, mais l'expérience du référendum de 2005. Bien les sûr. Français ont été contre le référendum et où, 3 ans plus tard, on leur impose par la voie parlementaire et la voie du Congrès un traité qui, à 80%, ressemble étrangement au traité qu'ils avaient rejeté. Donc cette idée qu'en effet le vote est inutile, il y a une forme de démonétisation du vote, c'est extrêmement dangereux parce que, si vous voulez, ça nourrit la frustration, ça nourrit le ressentiment, ça nourrit la violence politique, ça nourrit la défiance dans la démocratie. Et là, on est véritablement, plus nous avançons dans notre vie politique ces dernières années, plus on se rapproche d'un point de rupture qui est un point de rupture particulièrement préoccupant. Il faut espérer que l'élection présidentielle, qui est une élection de redistribution des cartes, permette d'abord une forte participation et permette surtout que les Français puissent s'exprimer en pensant véritablement que, de toute façon, le candidat qu'ils éliront sera un candidat qui permettra de mener des politiques publiques qui seront des politiques publiques à leurs yeux efficaces.
Merci Arnaud Benetti. Nicolas Boutin, dernière question avant de libérer notre hôte.
Non, alors, une petite question sur le report, en fait, entre les blocs. Maintenant qu'on est dans un tripartisme, aux législatives, on avait vu que, oui, un bloc, par exemple, de gauche pouvait aller voter pour le candidat du centre pour éviter une majorité du bloc de droite. Là, de ce qu'on a vu au municipal, et surtout ce changement à la présidentielle, parce qu'à la présidentielle, pour le coup, au second tour, on ne peut pas voter contre quelqu'un. Quoi qu'il arrive, on vote pour quelqu'un. Est-ce que ce changement, est-ce que pour vous, il y a une porosité encore entre des blocs, ou est-ce que finalement, chacun avance dans son couloir ?
Tout dépend du candidat du second tour. C'est-à-dire qu'encore une fois, le candidat du second tour peut entraîner un vote de rejet. Donc, il n'y a pas qu'un vote d'adhésion au second tour. Il y a un vote de rejet, même si on vote pour quelqu'un. On l'a vu à plusieurs reprises. La réalité, c'est que ce que l'on a vu aux dernières élections municipales, c'est que l'alliance entre LFI et la gauche dite social-démocrate a diversement fonctionné et plutôt mal fonctionné. La question est de savoir, et ça il faudra le regarder de près, si on a assisté à une surmobilisation de l'électorat de droite et du centre pour faire barrage à des listes d'union avec LFI, ou est-ce qu'il y a eu une déperdition d'une partie de l'électorat de gauche qui n'a pas voulu valider la stratégie d'alliance au cas par cas entre LFI et, pour aller vite, le Parti Socialiste ou les Verts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'hypothèse d'un second tour où un candidat, quel qu'il soit, devrait affronter un candidat de la gauche ou un candidat surtout de LFI, la question de l'alliance à gauche aujourd'hui se pose, comme elle ne se posait pas auparavant. Si vous voulez, ça c'est la grande évolution, c'est qu'il y avait une espèce d'interdit moral de l'alliance à droite, pour aller très vite, entre le Bloc républicain et le Bloc du Rassemblement national. Cet interdit continue à subsister, mais on voit qu'il est en train de s'éroder. Par contre, on voit qu'il y a un début d'interdit qui commence à s'exprimer à gauche, notamment dans la relation de la social-démocratie avec la gauche radicale.
Oui, la question c'est, on sait ce qu'il en est, c'est toujours pareil, on sait ce qu'il en est des décisions des chefs à plumes, mais la question c'est que feront les électeurs, est-ce qu'ils suivront les consignes ou non, c'est toujours l'inconnu, les inconnus des scrutins. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous.
Merci
et
beaucoup.
Nicolas Boutin, vous restez avec nous. Vous restez aussi avec nous, chers auditeurs, puisque dans quelques instants, nous accueillerons Édouard Bina, président de la Cocarde, avec lui, nous revient de la Cocarde étudiante. Avec lui, nous reviendrons sur le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale et sur la menace antifasciste qui continue de peser sur les étudiants de droite. Restez avec nous, chers auditeurs. On revient dans quelques instants.
Appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Marc Hainaut.
Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Thomas Morel. Rebonsoir Thomas.
Rebonsoir Marc.
Nous sommes toujours avec Nicolas Boutin, rédacteur en chef de VA Région, et nous accueillons Édouard Bina. Bonsoir Édouard.
Bonsoir.
Vous êtes président du syndicat de la Cocarde étudiante, donc un syndicat étudiant à droite, on peut le dire. Ça va ?
Oui, ça va. Je ne suis jamais caché de ça.
Vous êtes président du syndicat de droite de la Cocarde étudiante. Et l'information qui a claqué un petit peu comme un coup de tonnerre dans la classe politique, c'est le retour de Raphaël Arnaud sur les bancs de l'Assemblée nationale. Avant de vous interroger sur le sujet d'Orbina, je voulais juste faire intervenir Nicolas Boutin sur le sujet. Parce que Nicolas a mené à traquer Raphaël Arnaud, on peut le dire, pendant plusieurs jours. Parce qu'effectivement, le député avait disparu depuis cette depuis la mort de Quentin Durant, en réalité. Déjà, qu'est-ce que avant qu'il revienne, qu'est-ce que vous aviez réussi à trouver Nicolas Boutin et surtout pourquoi a-t-il disparu?
En fait, la question, effectivement, Marc, la question était de savoir qu'allait devenir le mandat de Raphaël Arnaud. Allait-il démissionner ou non après donc l'implication, en tout cas la mise en examen de trois de ses assistants parlementaires dans l'agression mortelle de Quentin Durang. Et est-ce qu'il allait finalement donc se mettre en retrait de la vie politique? C'est le choix qu'il a fait. Est-ce qu'il allait être à Lyon, à Paris, à Avignon dans sa circonscription? Et donc nous sommes un petit peu allés chercher s'il était dans les meetings LFI, peut-être dans les coulisses. Est-ce qu'il a été dans les soirées électorales? Un petit peu notamment donc dans sa circonscription, parce que vous savez que l'ombre pendant son fantôme a plané lors des élections municipales, surtout qu'à Avignon il y a eu un accord entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, Canal Jeune Garde, comme le disait leur adversaire Olivier Gelzi, qui est devenu candidat de droite, devenu maire d'Avignon. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'y a eu absolument aucune apparition, ne serait-ce publique, mais même il était impossible de savoir où se trouvait Raphaël Arnaud, et on se posait à un moment donné la question de savoir si il se mettait vraiment au vert politiquement, ou s'il n'avait pas quelque chose comment dire, s'il n'était pas les mots sont peut-être un peu forts, mais c'était pas parti en fuite carrément, parce qu'il y a des questions judiciaires qu'il va falloir que l'enquête éclaircie, c'est-à-dire que faisait donc son collaborateur parlementaire à Lyon ses horaires de travail entre Avignon et Paris. À Lyon, a priori, il n'avait rien à y faire pour des questions de travail. Alors hier, Raphaël Arnaud a parlé d'un poste à mi-temps de la part de Jacques-Élie Favreau. Moi, ce que je vois de Jacques-Élie Favreau sur son profil Telegram, c'est qu'il s'occupe à la fois de la comptabilité, de la communication et des relations presse de Raphaël Arnaud. Donc, ça fait quand
ça
même
fait un gros mi-temps, quoi. Hein, c'est un mi-temps. Si on me demandait de faire tout ça en me disant tu seras en mi-temps, j'aurais flairé l'arnaque, vous voyez. Enfin, ça s'appelle un plein temps déguisé, ça, en droit du travail.
C'est pas impossible. Et donc, on se posait la question s'il n'était pas prévenu en amont de ce qui s'est passé à Lyon, et puis surtout s'il n'a pas été prévenu après. Et puis, la question, c'est si l'un de ses employés ou ex-employés, ou en tout cas ancien militant qui a eu Raphaël Arnaud comme chef, n'a pas appelé Raphaël Arnaud et pour lui raconter ce qui s'était passé. Et la question, c'est quelle a pu être la réaction de Raphaël Arnaud à ce moment-là. Est-ce qu'il aide les protagonistes à se cacher de la justice, à se soustraire à la justice, ou est-ce qu'il les encourage à se rendre au commissariat? Voilà. Donc pour le moment, ça reste des questions que le juge instructeur, les juges instructeurs, vont devoir éclaircir malgré tout.
En tout cas, ce mardi matin, Raphaël Arnaud a fait irruption dans une vidéo. Dans une interview vidéo tournée chez nos confrères de Blast. Édouard Bina, vous avez sans doute regardé cet entretien. Votre syndicat a longuement eu affaire à la Jeune Garde pendant de nombreuses années. Vous avez subi les violences de la Jeune Garde. Lorsque vous avez vu cette tentative de retour de Raphaël Arnaud via Blast, quelle a été votre pensée?
C'était malheureusement totalement attendu, et c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'on voit un député qui est quand même suspecté d'avoir aidé. En tout cas, déjà, il a fondé un mouvement violent. Il a été vu lui-même dans des vidéos en train de commettre des violences. Il a été condamné pour des faits de violence.
À la prison avec sursis, absolument.
Oui. Ensuite, son mouvement revendiquait ouvertement des violences sur les réseaux sociaux. Il y a des dizaines de vidéos avec marqué « revendiqué par la Jeune Garde » où ils agressent des gens. Il y a des vieux posts où remontez le compte Instagram de la Jeune Garde. Vous les voyez en train de revendiquer d'avoir volé des vêtements à des gens parce qu'ils étaient militants de droite. Et en fait, on avait connaissance d'absolument tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il y a trois assistants parlementaires de Raphaël Arnaud qui sont impliqués de près ou de loin dans cette affaire, dont Jacques-Élie Favreau, qui, d'après les informations du JDD, aurait crié « tuez-le », butez-le », il me semble.
Absolument.
De l'autre côté, on découvre en fait que Raphaël Arnaud, si on regarde, l'ensemble de ses assistants parlementaires étaient de la Jeune Garde. Donc il y avait tout un système Jeune Garde organisé autour de lui. On voit que les anciens de la Jeune Garde qui parlent dans la presse, dans Le Parisien, il y avait marqué qu'ils étaient là pour faire le, je cite, sale boulot, en ayant des postes ensuite. Et d'ailleurs, on avait retrouvé d'autres membres de la Jeune Garde candidats au municipal ensuite.
Mmh.
On en avait un d'ailleurs qui était sur la liste à Rosny-sous-Bois, sur la liste de la France Insoumise. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit aussi qu'il a marqué que la Jeune Garde avait pour but aussi de s'en prendre à d'autres mouvements antifascistes pour en fait contrôler du territoire. Donc on a littéralement un gang.
Mmh.
Ça s'appelle un gang.
Qui a été en tout cas pris comme tel par Jean-Luc Mélenchon et qui a été utilisé oui. comme tel.
Donc on a un gang violent qui sert à agresser et à avoir un contrôle de territoire, qui est embauché partiellement, comme vous l'avez dit, sur des mi-temps par Raphaël Arnaud pour faire justement... À quoi sert l'autre partie du temps ? À faire le déplacement. Et quand on regarde le fait que Raphaël Arnaud a fondé la Jeune Garde, que Jacques-Élie Favreau, c'est son assistant parlementaire, qu'il a toujours été une des têtes de la Jeune Garde à Lyon, qui passait son temps à menacer des étudiants de droite dans leurs établissements, Raphaël Arnaud était parfaitement au courant de qui était Jacques-Élie Favreau. D'ailleurs, il le défend lui-même dans l'interview en disant qu'il ne pense pas que Jacques-Élie Favreau aurait pu se comporter comme ça et aurait eu la volonté de tuer. Butez-le, c'est quand même plutôt explicite.
Oui. En tout cas, s'il a vraiment tenu ses propos, si les informations du JDD sont exactes, effectivement,
oui.
c'est à charge.
Et de l'autre côté, il faut bien préciser qu'on a Blast qui n'a aucune contradiction, c'est-à-dire qu'il le laisse totalement dérouler en étant financé par l'argent public. C'est-à-dire qu'à droite, déjà, à vouloir toucher l'argent public, combien de médias de droite touchent l'argent public ? Combien touchent l'argent du CNC ? Et là, on a l'argent public des Français qui est utilisé. C'est-à-dire qu'indirectement, et c'est là où on voit le scandale, l'argent des parents de Quentin est utilisé pour subventionner un média. En fait, il a été utilisé pour payer Raphaël Arnaud, qui pendant 2 mois n'a pas travaillé, pour payer les assistants parlementaires de Raphaël Arnaud qui sont impliqués dans l'assassinat de leur fils, et pour payer le média qui essaie ensuite de le blanchir. C'est tout le système de l'extrême-gauche. Et c'est ce niveau de honte qui est absolument abominable. En fait.
Cette entreprise de réhabilitation, on le voit effectivement donc à la France Insoumise, bien évidemment, puisque les troupes de Jean-Luc Mélenchon ont pour principe de ne jamais lâcher leurs copains, même quand ceux-ci sont poissés. On le voit dans ce média, donc Blast, on l'a vu évidemment dans certains médias, on l'a vu évidemment dans l'UMA, dans Arrêt sur Image et autres. Mais est-ce que vous avez l'impression, de votre point de vue, que ils ont aussi retourné le récit ou pas ? C'est un petit peu la question, puisqu'on a bien vu les deux récits s'affronter. Au fond, ceux qui ont essayé de relativiser cette mort en insistant sur les opinions réelles ou supposées de Quentin Derenck émanant d'un compte Twitter qui lui appartient ou qui lui appartient pas selon les sources, ou est-ce que face à ceux qui finalement disent en fait le sujet c'est qu'il y a un jeune homme qui a été tué, dont on essaie de légitimer la mort en raison de ses idées, est-ce que finalement c'est qu'il n'y a pas eu une guerre de récits, et est-ce que d'après vous quand même le récit du bon sens a gagné malgré tout?
Mais il y a totalement une guerre de récits, et le problème c'est que quand on voit par exemple la présidente de l'Assemblée nationale qui nous dit qu'elle regrette d'avoir organisé cette minute de silence, en quoi? C'est-à-dire qu'elle regrette pour Quentin Derenck parce qu'il aurait supposément fait des tweets qui iraient contre la doxa, et de l'autre côté, la minute de silence pour Naël, qui était quand même pas forcément un petit ange, là, elle ne regrette pas. Et en fait, on a systématiquement ce deux poids deux mesures, on a systématiquement un moment la gauche déroule en permanence son récit médiatique. Il suffit de voir, aller sur la page Wikipédia de l'affaire Quentin, regarder, et c'est parce que c'est le narratif qui sera retenu.
Ouais.
On a un jeune qui a été tué par une milice qui était employée indirectement ou directement par la France Insoumise. Et derrière, on a la page Wikipédia qui commence à vous expliquer que c'est les immondes néo-nazis qui ont tenté d'attaquer la gentille conférence de Rima Hassan, alors même qu'on a déjà eu des événements par le passé. C'est-à-dire que, prenons l'affaire de Dauphine. Qu'est-ce qui se passe ? On a une conférence de Rima Hassan dans une université où la Jeune Garde était présente pour faire le service d'ordre et s'en prend à des individus, ici de par leur appartenance à la communauté juive. Et là, c'est quasiment un copier-coller de ce qui s'est passé. Et en fait, ce n'est pas la première fois. Rima Hassan est venu intervenir dans mon école, c'est-à-dire Sciences Po Lyon, ce n'était pas la première fois. Et la dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé ? C'est la fois d'avant. Des membres de la Jeune Garde s'en avaient pris à des étudiants de Sciences Po Lyon, dont des amis à moi, parce qu'ils étaient reconnus comme étant de droite. Un d'entre eux étant même membre des LR, ayant signé une tribune de soutien à Valérie Pécresse.
Ce qui en fait un dangereux fasciste sont leur logiciel.
Oui, mais vous regardez, les jeunes avec Macron avaient communiqué sur des agressions subies de par la Jeune Garde à Nanterre. On a l'équipe de Jean-Michel Aulas, qui est quand même un candidat Renaissance, qui parle aussi de violences faites par la Jeune Garde. En fait, on a un niveau de violence des antifascistes, des soi-disant antifascistes, qui s'en prennent systématiquement à tout ce qui est en fait un opposant politique. Et derrière, on a le service, souvent même le service public. On se souvient de l'immonde édito qui était sorti sur l'affaire Thomas, où on venait presque à inverser, on prenait le récit littéralement des coupables, qui a leur version, c'était même pas présenté comme leur version, Thomas aurait été raciste, et c'est la même chose. C'est d'un côté, il y a ceux qui meurent, et de l'autre, il y a les pauvres victimes, parce qu'il y a eu un pauvre tweet. Et de l'autre côté, quand Rima Hassan fait des tweets où il appelle quasi, presque, sont presque des menaces de mort à des moments, dont par exemple le tweet sur François-Xavier Bellamy, là, non, c'est un tweet. Je me souviens des militants de gauche qui me disaient « Ah, mais tel bâtiment a brûlé. Ah, mes condoléances à la famille des portes, des vitrines, des banques, etc. » Donc, du moment que c'est pas les personnes, ça va, mais quand c'est les personnes, ça va aussi, parce que c'est des nazis, ils ont toujours la bonne excuse pour justifier leur comportement. Le principe de la gauche, c'est de ne jamais s'excuser. Ils ne s'excuseront pour rien. Ils ne vous laisseront rien passer, et ils ne s'excuseront pour rien. Et une partie de la droite tombe encore dans ce panneau d'essayer de maintenir une équivalence. D'un côté, il y a ceux qui tuent, qui agressent, qui volent, qui le revendiquent et qui sont soutenus par l'ensemble de la gauche. Et de l'autre, en fait, il y a quoi ? Des tweets ?
Edouard Bina, président de la cocarde étudiante, en direct de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois. Nicolas Boutin, justement, cette guerre de récits sur l'affaire Raphaël Arnaud, vous l'avez vu de près. On a quand même le sentiment cette fois qu'il n'y a pas eu un seul récit. Habituellement, on a un discours médiatique dominant qui s'empare du récit et qui l'impose à tous. Là, il y a eu tout de même une tentative de rétablissement de la vérité. Est-ce que vous l'avez observé, vous, cette guerre des récits?
Oui, alors il faut dire que c'est vrai qu'au début, ce qui médiatise l'affaire et la mort de Quentin, c'est quand même les vidéos qui sont éloquentes. On voit quand même, quelles que soient les pensées, les écrits de Quentin, quel que soit tout ce qu'ils peuvent essayer de trouver ces derniers temps, les raisons de sa présence, il y a 5 à 6 personnes qui piétinent un jeune homme inconscient à terre. On se rend compte ensuite qu'il y a ce fameux groupe, vient de parcourir plus de 250 mètres pour aller au contact du groupe de Quentin qui était stationné dans une rue sans être visible de la part des participants de la conférence de Rima Hassan. Donc il y a quand même ces deux, c'est notamment ces gros points qui sont indiscutables, indéniables, et pourront dire tout ce qu'ils veulent, ces deux points-là ne sont plus discutables. Et alors maintenant, on a BFM TV qui a révélé un rapport des renseignements territoriaux qui sont effectivement présents sur place et qui parle de militants de la Jeune Garde qui se sont donné rendez-vous une heure avant de passer à l'acte dans un square, puis ensuite... Il rentre dans Sciences Po par l'arrière. Puis ensuite, ce cagoule s'équipe. Et je ne fais que citer le rapport. Puis ensuite, vont vers le groupe de Quentin. Mais finalement, il y a dans le reportage télévision une phrase un peu ambiguë, maladroite. On va dire que la virgule n'est pas placée au bon endroit. Et là-dessus, la France Insoumise, qui n'arrête pas à chaque fois de dire que leurs adversaires font des fake news, qui propagent des fausses nouvelles, des fausses informations, ils sont à pièces joint dessus, Mathilde Panot, Thomas Porte, tout le monde, pour dire que ce sont les amis de Quentin qui se masquent et s'équipent. Alors, le rapport est bien clair, ce sont bien des militants de la Jeune Garde qui se sont équipés pour ensuite aller au contact de la Jeune Garde. Et s'ils mentent là-dessus de manière aussi visible, c'est qu'évidemment ils sont mal à l'aise. D'ailleurs, Raphaël Arnaud, on l'a senti très mal à l'aise hier dans de son entretien. Il n'était pas tout à fait à son aise.
Il était très discret dans l'hémicycle, en tout cas.
Très discret dans l'hémicycle, mais même sur Blast, Il vient à justifier sa condamnation, toutes les violences qui ont été faites par la Jeune Garde, par des prétendus assauts de 80 personnes armées de barres de fer à chaque fois, où il dit qu'il tout est prouvé, prouvable en vidéo. On ne les a jamais vues, ces vidéos. Elles n'existent pas, d'ailleurs.
Ouais, l'axe de défense de Raphaël Arnaud et d'Orbina, on suppose qu'il ne vous a pas convaincu ?
Pas le moins du monde. En fait, On connaît les méthodes de la Jeune Garde. Ça fait des années qu'ils agressent impunément. On voit des vidéos d'eux où ils sautent à pieds joints sur la tête de personnes. En fait, à un moment, ça allait arriver. C'est là où pour moi, une partie de cette inversion médiatique où en fait on a tenté de rendre Quentin coupable de sa propre mort vient du fait que une partie du système politico-médiatique s'est rendu compte qu'ils étaient mouillés eux-mêmes. Mmh. Puisque le Parti Socialiste peut tenter de se distancer autant qu'ils veulent, ils ont soutenu Raphaël Arnaud.
Ouais.
Et Gabriel Attal a indirectement soutenu Raphaël Arnaud.
En demandant le Front Républicain contre l'Assemblée Nationale.
Là, en fait, on peut parler de la police et de la justice. Certains, dans le cas de la police, c'est plutôt de par certains ordres. Mais quand on a les renseignements qui vous disent que leur priorité, et les ordres en termes de priorité, c'est l'extrême droite, l'ultra-droite, etc., de l'autre côté, en fait, la jeune garde n'était quasiment jamais inquiétée pour leur violence. Mmh. Et ça a laissé un climat de violence où, en fait, et nous, on le voit sur les campus, la semaine avant la mort de Quentin, hein, les mêmes militants de la jeune garde s'en prenaient à nos militants qui venaient tracter sur un campus à 8h du matin. À 8h du matin, nos militants arrivaient sur un campus, ils tombaient sur une dizaine de personnes masquées, cagoulées, qui venaient s'en prendre violemment à eux, dont certains qui se sont ensuite retrouvés à tuer Quentin.
Mmh. Et ouais, c'est
un niveau, en fait, c'est un niveau de laisser-faire qui démontre à quel point l'État est devenu défaillant. Et en fait, l'État s'est rendu compte de sa propre défaillance. Alors, ils ont embarqué quelques membres de la jeune garde. On en a, quoi, 7 ans encore en détention préventive.
Au moins, oui. Oui.
Rappelons d'ailleurs aussi que la fille qui met un coup de pied à Quentin au sol n'a jamais été retrouvée. Donc, on a en fait des personnes qui ont participé à la mort de Quentin qui ne sont toujours pas en prison. Donc, la justice n'est pas encore complète.
Pour vous, il y a une défaillance judiciaire.
Mais il y a un nombre de défaillances qui est énorme. En fait, le système commence à comprendre qu'ils ont tout intérêt à faire passer ça pour une banale rixe entre l'extrême droite et l'extrême gauche, parce que j'ai été étudiant pendant 5 ans à Sciences Po Lyon, et je peux vous dire que j'ai demandé les caméras de surveillance, parce que lorsque des membres de la jeune garde, dont Dimitri Van Hul, qui justement est en détention préventive pour ce meurtre, m'attendaient à la sortie des cours pour essayer de m'agresser, lorsque des membres de la jeune garde sont rentrés dans l'établissement pour tenter de m'agresser, l'administration n'a rien fait. Aucune tentative de mettre de la sécurité, quoi que ce soit. J'ai demandé des caméras de surveillance, pas de caméras de surveillance. Là, à nouveau, cela faisait à chaque fois qu'il y a une conférence de Rima Hassan dans une université, on se retrouve avec des violences à côté. Présence policière ? Non. Tentative soit d'interdiction, soit à minima de faire comprendre qu'on ne peut pas faire rentrer des membres. En fait, un contrôle des cartes. Normalement, une conférence, hein, on peut parler de la pertinence d'un meeting politique dans une université, mais une conférence dans une université, ça devrait être soit réservé aux membres de l'université, soit à minima sur inscription. Je ne suis pas sûr que l'entièreté des membres de la jeune garde qui sont rentrés dans l'établissement pour se cagouler et s'armer aient été inscrits l'été.
Et on est d'accord que pour une conférence politique de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, il n'y a jamais eu de conférence politique de personnalité politique de droite.
Et c'était absolument, évidemment, impossible.
Mais ça mérite d'être précisé quand même, nous avions, les gens s'en rendent compte.
À l'époque, nous avions tenté de prendre le contrôle de l'association de débats et de conférences de Sciences Po Lyon. Nous avons eu le contrôle, nous avons commencé à dire nous aimerions inviter telle et telle personne de droite. La direction nous a dit texto, trouble à l'ordre public, on peut pas.
Mais même des personnalités de droite, enfin pas.
Et Jean Lassalle ne peut pas venir faire une conférence à Sciences Po Lyon.
Parce que Jean Lassalle est d'extrême droite pour.
Oui. Ouais. Et en fait, c'est systématique, c'est-à-dire les personnes de droite ne peuvent pas venir parce que sinon la gauche ne sera pas contente. Par contre, la gauche peut venir. Et ça donne une scène lunaire où en fait, quand on est étudiant dans un IEP, on n'a accès qu'à des gens de gauche, parce que les seuls syndicats sont de gauche, les professeurs sont de gauche, la direction, généralement, soit elle est de gauche, soit elle est complaisante. De l'autre côté, on n'a que des conférenciers de gauche, et les rares personnes de droite qui commencent à parler un peu se retrouvent avec les futurs assassins de Quentin qui viennent toquer à la porte pour essayer de les agresser. Bienvenue en démocratie.
Donc plus de 2 mois après la mort de Quentin, évidemment, rien n'est encore réglé et tout reste encore à faire. Merci encore, chers auditeurs, d'avoir été avec nous à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois de Valeurs Actuelles comme tous les jeudis. Vous retrouverez demain, vendredi, l'émission de Marc Baudrier pour Boulevard Voltaire. Et moi, je vous retrouve jeudi de la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt.
Ça suffit maintenant.